Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui René Poznanski, professeur d'histoire à l'Université Ben-Gurion du Negev, et Denis Pechanski, directeur de recherche au CNRS, pour le livre « Drancy, un camp en France », coécrit avec Benoît Pouvreau, un livre qui est paru il y a quelques mois aux éditions Fayard. Alors cet ouvrage est conçu comme un ouvrage de référence, avec de nombreuses illustrations et photographies souvent inédites. Un ouvrage qui a l'ambition de retracer à la fois l'histoire et la mémoire de ce camp qui a été, on le sait, le point névralgique de la déportation des Juifs de France. Alors vous commencez avec les origines de la Cité de la Muette dans les années 30 et finissez avec l'ouverture du mémorial de la Shoah de Drancy en 2012, en citant d'ailleurs en exergue François Maspero qui, en quelques lignes, retrace le destin de la Cité de la Muette, pièce en trois actes, cité radieuse, cité de la mort, cité banale. Nous allons donc revenir avec vous deux sur ces différentes périodes de la cité. Et parce que cette architecture en U, entourée de ces gratte-ciels, est importante pour comprendre plus tard le fonctionnement du camp, peut-être pouvez-vous revenir, Denis Pechanski, sur la naissance de la cité de la Muette.
C'était un grand projet utopique. On était confronté dans cette banlieue parisienne à d'énormes difficultés de logement, et donc on essaye de monter ainsi des habitations, ce qu'on appelle aujourd'hui les HLM, qu'on appelait les habitations à bon marché à l'époque, les HBM. Et en même temps, c'est un projet architectural. On a deux grands architectes qui se lancent dans ce programme dans les années 30, sauf que ce sont les années 30, années de crise, et que ce projet qui était porté en quelque sorte à la fois par le monde de l'architecture par tout ce tissu politique et social de la banlieue rouge, va finalement prendre beaucoup de retard, la crise empêchant effectivement d'aller jusqu'au bout. Donc c'est cette cité radieuse dont parle Maspero, qui est un projet, qui est presque un projet utopique, et qui va déboucher sur un autre projet, qui est un projet de cité de la mort.
Avant même, et c'est ça l'apport de votre livre, c'est de vraiment contextualiser ce lieu. En été 1940, la cité sert de camp de prisonniers, et on l'appelle à cette époque le camp des gratte-ciel, donc par rapport à ces tours, donc novatrices. Et c'est en août 1941 qu'elle devient un camp d'internement pour les juifs raflés dans la capitale.
Oui, on oublie qu'effectivement ce camp a été d'abord camp de prisonniers de guerre français, puis camp d'internement pour ce qu'on appelait les ressortissants de puissances ennemies, et comme la France était vaincue, les ressortissants de puissances ennemies, c'était en particulier les Anglais, bien sûr, qui vont se retrouver là à la fin 40, et eh bien, ils partent au début de l'été, et ils seront remplacés par des internés juifs, car Drancy va devenir le premier grand camp d'internement de la région parisienne pour les juifs. On avait eu en fait trois grandes rafles en 1941. La première a donné les naissances à ces deux camps du Loiret, de Bonne-la-Rolande et Pithiviers. La deuxième rafle a donné le camp de Drancy.
Alors, René Poznanski, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ce qui est aussi un des grands intérêts, je trouve, de ce livre. C'est-à-dire que vous revenez en détail sur la manière dont le camp est géré, et surtout par qui. Des questions qu'on ne se pose pas forcément a priori, mais c'est donc le préfet de la Seine qui assume le financement du couchage et du ravitaillement, c'est bien ça. Et le camp est gardé par des gendarmes français, on n'en a pas parlé d'ailleurs avec vous, Denis Pechanski, on va peut-être y revenir plus tard. Les gendarmes français qui a priori habitaient dans les gratte-ciels, c'est bien ça. Comment vont se partager les responsabilités à Drancy entre le gouvernement français et les Allemands, de 1941 à juillet 1943
En fait, ce sont les autorités françaises qui en ont la gestion, sauf qu'elles étaient totalement sous le contrôle des Allemands et ne pouvaient prendre aucune initiative. Et ce sont les Allemands qui donnaient les ordres et qui indiquaient, qui ont empêché par exemple la libération d'internés Pour toute libération, les Français étaient obligés d'en référer aux Allemands. Donc c'était un camp qui était géré par les Français, mais totalement sous le contrôle des Allemands.
Et qui a ouvert à l'initiative de qui, alors ?
Ce sont les Allemands qui ont décidé de le transformer et qui en ont prévenu les autorités françaises à la dernière minute. D'où la première période dans l'existence du camp qui a été absolument épouvantable. Ça a été les temps de l'improvisation. Sont arrivés des internés dans un endroit qui n'était pas du tout prévu pour les accueillir. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de chalet, il n'y avait pas de paille, il n'y avait pas de récipient pour manger, il n'y avait pas les cuisines ne fonctionnaient pas, rien. Et même les différentes directives sur la façon dont devait être géré le camp, il a fallu attendre 5 jours pour qu'elles soient données, qu'elles soient publiées à l'intérieur du camp. Donc c'était vraiment le désordre absolu, l'improvisation absolue, pour des internés qui étaient arrivés là sans très bien comprendre comment, pourquoi.
Ce qui explique très certainement donc, ce que vous décriviez, c'est-à-dire des conditions de vie épouvantables, mais à partir du moment où ce sont les Français qui étaient censés financer justement le couchage et le ravitaillement, comment on peut expliquer que les conditions étaient si terribles dès le début ? C'est-à-dire qu'en gros, il a fallu que la Croix-Rouge et différentes associations interviennent pour que les conditions deviennent tout petit peu décente, non, le mot ne convient pas, mais en tout cas qu'elle soit un peu moins...
Il a fallu également qu'il y ait une 30aine de morts en l'espace d'une semaine pour que les Français paniquent un peu, qu'ils profitent du départ de Dannecker, qui était Théodore Dannecker, qui était le responsable du Judenreferat à Paris, qui en fait traitait de façon prédominante de toute la question juive. Il était parti à Berlin pour quelques jours et donc cela a permis la libération de quelques 800 internés qui étaient particulièrement malades, dans un état particulièrement critique, et un certain nombre d'améliorations. Mais au départ, ils n'avaient la possibilité de communiquer avec personne. C'était vraiment la fin. On appelle cette période le drancy de la faim. C'était vraiment la famine. Les internés fouillaient dans les ordures. C'était terrible. Et même dans ces conditions-là, il y a eu des mouvements pour essayer de rompre cette famine qui les minait. Même une grève de la faim était envisagée. Mais ça, ils n'ont pas été capables de la suivre, bien sûr. Et les gens, vraiment, ça a été une période absolument terrible. Mais effectivement, une série de décès a un petit peu réveillé les consciences.
Mmh. Il y avait en plus plusieurs structures françaises. Parce que vous parlez du gîte et du couvert, c'était la préfecture de la Seine. La sécurité, c'était la préfecture de police. En particulier, le chef de camp était un commissaire, comme si Libert, qui était... qui a été nommé par la préfecture de police. Et puis vous aviez des gendarmes. Bon. Donc vous voyez, il y avait 3 structures et des structures qui ne s'entendaient pas toujours. Et à côté, au-dessus, en l'occurrence, vous aviez les autorités allemandes, jusqu'en 1943, puisque, comme vous l'indiquiez bien en ouverture, à partir de 1943, on a un changement de tutelle, puisque là, on a une mainmise directe par les autorités allemandes. Donc on voit bien que on s'inscrit à la fois dans une logique allemande assez rude de contrôle des populations juives, d'internement des populations juives, avec une dimension évidemment racialiste et une dimension d'exclusion qui s'imbriquait parfaitement avec la logique d'exclusion qui était au cœur du régime de Vichy. Parce que vous savez, pour ces nouveaux gouvernants à Vichy, le juif, le communiste, l'étranger, le franc-maçon étaient considérés comme les responsables de la défaite. Parce qu'ils avaient participé de cet écroulement de la société française depuis la Révolution française. Ça, c'est une thématique de l'extrême droite qui a été d'ailleurs reprise pendant l'affaire Dreyfus et qu'on retrouve là. Bon. Donc, c'était en cohérence avec le discours qui était un discours d'exclusion du régime de Vichy.
Il y a quand même une rupture par rapport à ce discours, on va dire. Et un tournant dans la vie du camp, c'est la rafle du Veldiv et l'arrivée de femmes et d'enfants à Drancy, qui eux, a priori, ne sont pas soupçonnés d'être communistes.
Oui. Alors ça a été une rupture d'autant plus grande que les internés ne savaient absolument pas à quoi s'attendre. Lorsque ces 800 libérés ont déposé des témoignages, on a utilisé énormément de témoignages et de journaux pour ce livre. En novembre 41, le motif qui revient le plus, c'est au départ, c'était l'improvisation, puis les choses se sont améliorées. Donc, nous, on connaît la fin. Les internés ne la connaissaient pas. Et par conséquent, quand ils ont vu les choses s'améliorer, ils ont commencé par penser que, bon, au bout du compte, ils ne veulent pas notre mort. Ils ne veulent pas notre mort, puisque quand il y en a eu 30 qui sont morts, on a libéré les plus malades. Juillet 42, effectivement, a changé beaucoup de choses. On a vu arriver des femmes, puis on a vu arriver des enfants. Et ça a été la panique, et ça a été... De nouveau, après une période où les choses s'étaient un peu tassées, bon, c'était pas les conditions d'idéal, hein, mais c'était plus l'horreur des premiers jours. De nouveau, le camp a été bondé, mais absolument bondé. Des chambres qui ne contenaient que 30 personnes, les internés se sont trouvés à 90. Ça a été absolument l'horreur, et de voir arriver les femmes, c'était toutes les inquiétudes qui pouvaient naître, puis ensuite les enfants.
Et on voit bien que Drancy entre dans une nouvelle histoire, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce n'est plus la logique d'exclusion, ce n'est plus la mise à l'écart qui est à l'ordre du jour. C'est l'organisation de la déportation des Juifs de France. Bon, à partir de là, Drancy va devenir le point névralgique. C'est le centre, le camp de transit d'où partent la très très grande majorité des Juifs qui vont être déportés de France. Entre 1942 et 1944. Donc c'est une nouvelle histoire qui commence et qui va avoir des conséquences sur la vie dans le camp, sur l'organisation, sur les déportations, sur la façon dont la population aux alentours va réagir, dont la population française en général va réagir, dont les Juifs à l'extérieur vont réagir. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est impossible de comprendre, de faire une histoire de Drancy si on ne prend pas en compte toutes ces composantes-là. On ne peut pas faire une histoire de Drancy de l'intérieur. C'est impossible. Parce que l'histoire des Juifs, l'histoire des persécutions, s'inscrivent dans une histoire globale et qui donne des clés de compréhension, d'analyse, y compris sur les comportements des Juifs à l'intérieur de Drancy.
Sur ces comportements, vous y revenez longuement et aussi à travers des témoignages. Il y a notamment le témoignage de Georges Cohn qui revient régulièrement et qui est assez édifiant sur la manière dont fonctionnait le camp. Il parle aussi d'ailleurs de ce qu'il ressentait, je crois, notamment le convoi d'enfants, et particulièrement la description de l'arrivée du convoi d'enfants est assez terrible. Mais est-ce que l'un de vous deux peut peut-être nous parler de lui plus particulièrement, de son témoignage?
Georges Cohn a été le commandant du camp pendant de longs mois. Et il a commandant juif du camp, bien entendu, oui. Parce qu'il y avait un commandant juif. D'ailleurs, une des choses qu'on essaye de voir également, ce sont les rapports entre les internés, parce que les internés n'étaient pas égaux. Il y avait des privilégiés. Et c'est un sujet sensible.
Des privilégiés par rapport au statut, vous voulez dire du statut des privilégiés ou
pour des privilégiés raisons... à l'intérieur du camp.
D'accord.
Des gens qui, les médecins par exemple, pouvaient bénéficier d'un certain privilège. Ils logeaient parfois dans d'autres endroits. Lors des délibérations, ils ont été particulièrement nombreux à être libérés. C'est une forme de privilège. C'est pas, il leur manquait toujours la liberté, ou en tous les cas ceux qui n'ont pas été libérés. Mais c'est une forme de privilège. Ceux qui avaient des responsabilités à l'intérieur du camp étaient en ce sens des privilégiés. Ceux qui avaient accès aux cuisines. Pouvaient mieux se nourrir. Ceux qui connaissaient quelqu'un qui avait accès aux cuisines. Et on pourrait multiplier les exemples. Il y avait on avait établi une hiérarchie entre les internés. Et ce n'était pas un hasard. C'était pour y faire maintenir l'ordre. Et en même temps, ça permettait effectivement de contrôler mieux tous les internés.
Et très clairement, là, ce qu'on pointe là avec René, c'est les lignes de fracture à l'intérieur. Et en particulier une ligne de fracture qu'on connaît bien, qui est celle entre les Israélites français, ou les Français israélites, qui étaient très très bien intégrés dans la société depuis des décennies, voire des siècles, Et puis, les Juifs étrangers qui avaient rejoint la France dans les années 30, dans la suite des persécutions. Et là, on a des tensions au sein même du camp qui vont émerger. Ça ne veut pas dire que les Français, israélites, vont tous survivre. Ils s'en foutent beaucoup et ils termineront pour beaucoup dans les chambres à gaz de Birkenau. Mais c'est clair que la direction du camp jouait sur ces tensions. Et les Allemands, en particulier, vont jouer sur ces tensions entre cette composante plus, je dirais, à la fois plus intégrée et puis qui a des ressources financières, intellectuelles, culturelles beaucoup plus importantes que c'est les pauvres juifs qui viennent dans les années 30 et qui fuient les persécutions de toute l'Europe centrale et orientale.
Oui, un certain nombre de ces Juifs israélites de France, certains notables ont été utilisés comme otages, notamment. J'imagine que les conditions d'internement ne sont pas forcément les mêmes.
C'est pas ça. Sur Drancy, il y a une singularité. C'est qu'il ouvre en août 1941. C'est-à-dire qu'au moment où l'Allemagne attaque l'Union soviétique, le 22 juin 1941, et donc où se construit en quelque sorte une idéologie, une image du monde, une interprétation du monde du côté allemand qui vise le judéo-bolchevisme. C'est-à-dire qu'on associe l'ennemi absolu qu'est le bolchevique avec l'ennemi absolu qu'est le juif. Et donc, ce camp va être en effet utilisé aussi comme un camp d'otage, un camp de représailles. Il va y avoir des exécutions d'ailleurs, et à plusieurs reprises, on vient chercher des internés dans le camp de Drancy, entre autres, et on va les fusiller en décembre 1941. L'exécution de décembre 1941, on a des Juifs de Drancy avec Gabriel Péri. Donc on voit bien comment tout ça est entremêlé dans cette idéologie nazie.
Hors de Drancy, est-ce qu'on sait ce qui s'y passe? Il y a des courriers qui circulent. Les voies de dénonciation sont pourtant assez faibles, René Poznanski.
Elles sont assez faibles. Tout le monde ne sait pas, tout le monde ne s'y intéresse pas, mais l'existence du camp de Drancy est connue. L'existence du camp de Juifs est connue. Alors, on a un problème de source en ce qui concerne la population de Drancy elle-même, et c'est lié au fait qu'aucun témoignage n'a été recueilli au lendemain de la guerre. Et c'est bien dommage. Lorsque la conscience de la Shoah s'est installée dans l'espace public, il était trop tard et personne n'a pensé à courir immédiatement pour essayer d'interroger les habitants. On a très très peu de témoignages. On retrouve l'extérieur immédiat du camp dans les journaux écrits par les uns ou par les autres. Et puis, à l'extérieur même du camp, on savait qu'il y avait donc ce camp des Juifs, mais on ne se posait pas trop de questions. Et aucun des journaux de la presse clandestine n'a rien repris concernant le camp. Très peu. Très peu.
Oui, un petit peu quand même, puisque j'ai vu des articles, je crois, dans votre reproduction, non?
Il y en a un petit peu. Il y en a sur la question de la persécution. Il y en a surtout au moment de l'été 42, où là, il y a eu un mouvement d'indignation générale dans la population contre les horreurs qui se déroulaient dans les rues. La séparation des familles, surtout le sort des enfants qui étaient arrachés des bras de leur mère, c'était le thème essentiel. Et cela, on le retrouve dans la presse résistante qui a suivi, cité les protestations de certains des membres de l'épiscopat français. Oui, mais en gros, il y a eu très très peu. Et Drancy apparaissait peu au bout du compte, mais on se rend compte à lire, par exemple, j'ai repris pour mai 44 la citation d'Aragon concernant Drancy. Il dit, c'est un nom qui faisait frémir d'horreur. Mmh. Donc on savait, on n'en parlait pas, mais c'était quelque chose qui se savait.
Il y a un article dont j'ai malheureusement pas noté le nom de l'auteur, un auteur d'extrême droite antisémite qui décrit Drancy en disant que les conditions sont à peine, sont même peut-être mieux que celles des prisonniers de guerre, parce qu'il ne faut pas oublier que là, des milliers de Français ont été emprisonnés dans les années qui ont précédé. Et il a comme ça une présentation du camp de Drancy absolument incroyable. En gros, oui, il précise que les prisonniers de guerre étaient innocents et que eux, par contre, ceux qui sont donc internés là, sont coupables.
On a deux moments, en fait, dans cette presse collaborationniste. On a l'ouverture du camp, 41, des reportages.
Voilà, c'est à cette période-là.
Des reportages, hein, radio, des articles, où effectivement la grande thématique était une thématique de dénonciation d'une population qui finalement était quand même très favorisée par rapport aux pauvres Français, y compris pour les Juifs français, on les mettait du côté des étrangers, parce que Juifs. Et donc, ça, on a cette thématique-là, bien entendu. Et puis, à partir de 1942, dans les écrits collaborationnistes, au moment des rafles et après les rafles, ça se charge, je pense en particulier à ce que pouvait écrire Céline, à ce qu'a pu écrire Brasillach. Là, ça se charge d'une dimension antisémite virulente participant de la volonté d'extermination. Hein. Vous savez, quand vous avez un journal comme Au Pilori qui titre « Mort aux Juifs », avant même l'organisation des déportations, « Mort aux Juifs », et qu'on a retrouvé un article de l'été 1942, la semaine de où s'organise la rafle du Veldiv, et qui explique voilà, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que dans 50 ans, il n'y avait plus un seul. Si, il y a un dernier juif qui existe encore aux eaux de Vincennes. Voilà. Et il va mourir. Donc vous imaginez dans quel contexte on est, en tout cas à Paris, dans cette presse collaborationniste, c'est-à-dire ces mouvements qui sont vraiment pour l'importation du modèle allemand. Du modèle allemand en France.
Alors, ce qui est justement absolument incroyable, on va devoir passer rapidement, malheureusement, sur la période allemande, évidemment, avec lorsque le camp est dirigé par Louis Brunner, très rapidement, puisqu'il quitte le camp donc le 17 août 1944 pour l'Allemagne. La cité est libérée officiellement le 19 août, et dès septembre 1944, elle va être réutilisée pour devenir un camp d'épuration. Elle va accueillir 6200 internés soupçonnés de collaboration. Il y a un certain nombre de personnalités, Bernard Grasset, Sacha Guitry. Du coup, il y a énormément de témoignages sur cette époque. En tout cas, vous avez
été profondément traumatisé par leur passage dans le camp. Hein. On sent bien que c'est là ils ont joué leur vie. Là.
Qui gère le camp à ce moment-là?
Alors, au début, ça se passe pas très bien parce que c'est des FFI de la dernière minute.
Ah, de la dernière minute.
Oui, parce qu'après, ça va créer quelques problèmes quand on va s'apercevoir que ce n'était pas vraiment des gens très recommandables et qui vont être internés à leur tour à Drancy. Bon, là, ça, c'était un peu problématique. Bon, mais après, ça s'est très, très vite stabilisé avec la reprise en main par le pouvoir central. Mais tout simplement parce que l'internement administratif, c'est-à-dire la possibilité d'enfermer des gens, non pas pour des crimes ou des délits qu'ils auraient commis, mais pour le danger potentiel qu'ils peuvent représenter pour la société, pour l'État, est toujours utilisé dans le cadre de la politique d'épuration, évidemment dans un tout autre contexte, évidemment de façon tout à fait différente, avec des conséquences sur la vie quotidienne qui n'avaient rien à voir avec le sort des Juifs entre 1942 et 1944. Alors, ce qui est original, c'est que le seul film qu'on ait sur Drancy, on en a un. Il a été filmé à la Libération.
Ah oui.
Seules images qu'on a, les images animées. On a des images fixes. Les seules images animées, c'est la Libération.
Il y a un autre épisode qui est assez important et qui est à nouveau lié à Drancy. C'est en mars 1947, le procès des gendarmes de Drancy, qui sera finalement le seul procès de l'épuration sur la persécution des Juifs et sur la responsabilité française.
C'est terrible, ce procès. Vous savez, quand on plonge dans les archives de ce procès, les PV les procès-verbaux d'interrogatoire, les témoignages, on voit combien, non seulement bon, on a des gendarmes qui ont joué un rôle important dans la gestion même du camp, mais comment
dans
ils
les
ont
trafics,
été
dans les rapports
voilà,
entre
voilà comment
les...
ils ont été gangrénés en quelque sorte par le lieu et sont devenus des brutes, des trafiquants, enfin bon, c'est ils ont été condamnés. On a là la trace effectivement du seul procès qui visait strictement des gendarmes ou des responsables de camp ou... Et là, c'est parce qu'on n'a pas simplement du zèle, oui. Parce qu'on n'a pas eu simplement du zèle. Hein. On a aussi eu du trafic.
J'invite vraiment tous les auditeurs à lire donc votre livre, parce qu'il y a énormément de choses dont on n'a pas pu parler. C'est un livre absolument passionnant. Et on apprend aussi vraiment beaucoup de choses, voilà, comme on le disait au départ, sur tout le contexte de ce camp. Je vous remercie donc tous les deux d'être venus, René Poznanski et Denis Péchanski. Je rappelle donc que le livre Drancy, un camp en France est paru aux éditions Fayard. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.